talmudique. David Bannon, bonjour.
Bonjour.
Alors, David Bannon, c'est un grand plaisir de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre conversation. La semaine dernière, nous avons découvert avec vous l'école de Paris et l'importance de la révolution que celle-ci a apportée dans le judaïsme et le monde de la pensée en général. Révolution portée essentiellement par un retour au texte, lu à l'aune et en dialogue avec les sciences humaines contemporaines, l'histoire, la philosophie, l'ethnologie, la sociologie, la psychanalyse et la littérature. Et cette lecture, vous l'avez mise en œuvre vous-même dans l'ensemble de vos recherches, dont témoigne entre autres votre dernier livre, qui propose au lecteur un ensemble de chapitres consacrés à la lecture et l'acte de lecture qui consiste non pas à être séduit ou subjugué, c'est-à-dire enchaîné par des interprétations qui existeraient déjà, mais en cherchant à répondre à son appel, à répliquer à son altérité, en un mot, se laisser au sens propre du verbe affecter par l'œuvre. Une façon de lire que vous appelez midrashique, il faudra préciser ce que vous entendez par le terme de midrash en hébreu, et qui ouvre à une lecture infinie qui était le titre de votre premier livre, qui est devenu une formule féconde pour les lecteurs. J'aimerais, si vous voulez bien, que vous nous donniez un exemple de ce qu'on appelle la lecture midrashique, David Bannon.
Bien, le midrash, c'est l'interprétation du texte. Mais une fois qu'on a dit l'interprétation du texte, il faut peut-être encore préciser, le Midrash aborde le texte qui, en le dynamisant, il essaye de faire lever le sens. Il essaye de faire lever le sens. C'est ainsi que c'est la métaphore qu'on pourrait utiliser pour dire que le Midrash est une exégèse créatrice, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte du texte, des limites et des contraintes du texte dans du discours, dans sa syntaxe, dans les mots qu'il utilise, dans les rapports qu'il met entre tel verset et tel autre verset, mais le Midrash laisse aussi une très grande liberté d'interprétation, compte tenu du fait que on doit se plier aux contraintes qui sont les contraintes de tout texte et de tout discours.
Vous dites souvent dans vos écrits, en citant Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, que il y a à la fois l'écriture qui est feu noir sur feu blanc, qui est le noir du texte, mais l'écriture c'est aussi le blanc du texte, et que ce blanc est en fait une invitation à la liberté du lecteur de donner sa propre interprétation.
Bien entendu, le blanc ou le non-dit ou les marges ou les indéterminations du texte ou les creux qu'il y a dans le texte, ce sont justement des invitations à la sollicitation, des invitations à l'interprétation. Tout cela, nous le savons bien, et nous savons par exemple qu'un grand maître qui ne faisait pas partie de l'école de Paris, mais qui était un grand maître de la littérature, qui s'appelait Erich Auerbach, a fait dans son Mimésis le premier chapitre, c'est la comparaison entre Genèse 22, qui est ce qu'on appelle le sacrifice d'Isaac, et le chapitre 14 de l'Odyssée, où la servante reconnaît Ulysse lorsqu'il revient à partir, puisqu'elle lui lave les pieds, à partir de sa cicatrice qu'il a eue lors d'une chasse où il chassait le sanglier. Et là, elle le reconnaît et elle revient avec le flashback en donnant toute l'histoire de cette scène de chasse, ce que ne fait jamais la Bible, puisqu'elle laisse justement suggérer, elle suggère et elle laisse l'imagination du lecteur courir pour interpréter.
Alors, dans le temps que nous vivons, cette lecture a aussi son importance politique, cette lecture créatrice, cette exégèse créatrice que vous citez. Vous insistez, vous soulignez que votre lecture n'est ni fondamentaliste, ni postmoderne. Et cela mérite à la fois un exemple et un commentaire, David Bannon.
Eh bien, ni fondamentaliste, ni postmoderne, Je dirais que aujourd'hui, où la place de l'intellectuel dans la société en général et dans la société juive en particulier est remise en question, alors justement on se tourne vers les rabbins qui sont des gourous, et puis on leur demande une lecture fondamentaliste, on leur demande par exemple une lecture qui exalte les miracles ou les événements qui sont extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire. Ça, c'est cette lecture fondamentaliste, on la laisse de côté, et il y a une lecture qu'on pratique, qui est pratiquée dans les universités, et notamment en tout cas dans l'université israélienne, qui est une lecture postmoderne, qui est une lecture déconstructiviste ou même destructrice du texte, où par exemple on remet en question à la fois les personnages, à la fois les événements, à la fois les idées ou le sens qui pourrait émerger de ces récits qui sont racontés.
Cette forme de déconstruction n'est pas si grave d'une certaine manière, parce que on peut très bien imaginer une lecture, qui n'est pas de l'ordre de la vérité, parce que le texte du Midrash ou la lecture créatrice que vous faites, je pense par exemple à au début de cette émission, j'ai cité les sciences humaines avec lesquelles dialogue votre lecture, et j'en ai omise une parce que je voulais y consacrer une question particulière qui me semble un point de tension révélateur d'enjeux fondamentaux, c'est l'archéologie. Vous entamez un dialogue critique avec Finkelstein et Zilberman, par exemple, deux archéologues qui lisent le texte biblique sous le régime de la vérité, le déconstruisant à coups d'arguments factuels des découvertes de l'archéologie, et vous montrez que dans ce dialogue, que ce qui est important pour vous, c'est le sens et non la vérité. David Bannon.
Oui, parce que la vérité est exclusive. Une fois que je dis c'est moi qui ai la vérité et j'ai trouvé cette vérité dans la terre à partir de l'étude de certaines pierres et de certains signes qui sont enfouis sous la terre, à ce moment-là, j'exclus tous les autres. Or, nous savons bien, vous et moi et les auditeurs qui nous entendent, nous savons bien que il y a des écoles d'archéologues, c'est-à-dire les archéologues ne sont pas d'accord entre eux. Et donc moi j'ai laissé tomber la notion de vérité parce que c'est une notion exclusive, et parce que c'est une notion plus qu'exclusive, c'est une notion radioactive, et j'ai choisi celui de sens parce que ça permet en tout cas la cohabitation de plusieurs sens un à côté de l'autre. Et je pense que c'est en racontant des récits que la Bible et les maîtres du Midrash, c'est-à-dire les maîtres des corpus d'interprétation de la Bible, eux essayent de faire lever ce sens pour nous le donner.
Et on pouvait se dire par exemple que les archéologues démontre que ce texte n'est pas de l'ordre de la vérité, dans la mesure où on dit qu'Abraham avait des dromadaires ou des chameaux, alors que l'archéologie démontre qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de dromadaires et de chameaux.
Oui.
Et contre cette question de la vérité, qui nous intéresse peu, en fait, vous dites que ce qui m'intéresse, c'est maintenant que ce texte dit qu'il y a des chameaux, quel sens cela a pour nous ?
Oui,
et c'est en cela que on parlerait d'une lecture du sens contre une lecture de la vérité.
Oui, c'est là vous mettez le doigt sur une question qui est importante, puisque les archéologues disent que la domestication des chameaux n'avait pas encore eu lieu à l'époque où le récit biblique parle des chameaux d'Abraham. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est que le Midrash, à partir d'une surdétermination du verset qui parle des chameaux d'Abraham, que le serviteur Eliezer a pris 10 chameaux parmi les chameaux de son maître, comme s'il pouvait prendre d'autres chameaux pour aller chercher une femme au fils de son maître Isaac, eh bien, on nous dit, cette surdétermination vient nous apprendre quelque chose de très particulier sur ces chameaux, c'est-à-dire qu'ils sortaient muselés pour ne pas aller brouter de l'herbe dans des champs qui ne leur appartenaient pas. C'est-à-dire, il y a là une dimension éthique qui est la dimension sur laquelle le Midrash insiste dans ce sens éthique, qui n'est pas dans le texte biblique, et ça témoigne du fait que qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas eu de chameau à l'époque où ce récit a été écrit, n'a pas d'importance du tout, puisque ce qu'on nous veut nous apprendre, ce qu'on veut nous transmettre, c'est le sens éthique.
Alors, dans cette question du sens éthique, il y a l'histoire, la question de la vérité, histoire et le sens, on vient d'en parler. Ce sont des expressions qui ont une tonalité très ricœurienne. À ricœur, vous empruntez un concept qui m'est très cher aussi, et que je crois d'une grande fécondité pour la lecture des textes bibliques, et des textes en général, c'est le concept d'identité narrative sur lequel vous revenez souvent, David Hanon.
Oui, identité narrative, c'est aussi extrêmement important parce que le peuple d'Israël tire son identité narrative des récits qu'il a lui-même écrits. Et ça, je pense que c'est une immense idée qui nous a été transmise. C'est-à-dire, les écrits que nos maîtres, au premier siècle de l'ère chrétienne, à Yamnia, à Yavne, ont introduit dans le canon biblique, c'est ce qui nous a donné notre identité narrative, c'est-à-dire notre identité à partir des récits, et ce sont ces maîtres qui ont dit « Voilà les textes qui vont vous donner votre identité. » C'est-à-dire que nous nourrissons nous nourrissons notre identité des textes que nous avons nous-mêmes écrits ou nous-mêmes fabriqués.
En disant cela, ça remet en question la révélation, parce que vous dites nous-mêmes écrits pour la Bible. Moi, je vais tout à fait dans votre sens, parce que pour moi, c'est un texte écrit par des hommes, mais pour quelqu'un qui est dans l'ordre de la tradition la plus classique, le texte biblique est plutôt écrit par comme un texte révélé.
Oui, c'est un texte révélé, mais c'est-à-dire ça n'empêche pas la révélation. Et comment moi, en tout cas, j'explique la révélation, j'ai écrit quelques articles et quelques études là-dessus, ce n'est pas une manifestation de Dieu, la révélation. La révélation, c'est l'épaisseur du sens qui se trouve enfoui dans la lettre et dans le texte. Ça, c'est la parole révélée. C'est-à-dire, la parole révélée est une parole qui, comme dit Lévinas pour l'infini, qui a du plus dans le moins de la lettre.
Un pouvoir dire qui va au-delà de son vouloir dire.
Exactement, un pouvoir dire qui va au-delà. Exactement, oui.
Voilà un beau cadeau que nous fait Camille Saint-Saëns en écrivant, en tout cas que nous a fait Camille Saint-Saëns en écrivant cette magnifique partition du Carnaval des animaux, une partition tout en clin d'œil, en citation, en pastiche, qui invite aux délices du déchiffrage, comme disait Jean Kelevitch. Une pièce tellement bien construite que j'ai eu des difficultés à n'en prendre qu'un extrait. J'ai choisi le signe, d'abord pour la beauté du passage que nous sommes en train d'entendre, c'est Yo-Yo Ma qui joue, et j'ai pensé qu'un compositeur qui s'appelle Saint-Saëns et qui nous fait signe ferait plaisir aux oreilles des amants de l'homophonie. Et si j'ai choisi le Carnaval des animaux, c'est pour souligner que, dans sa lecture, le lecteur de la Bible, et en particulier des 5 livres de Moïse, tombe très rapidement sur la question de l'animal, de son statut, de la responsabilité que l'on a envers lui et de l'éthique qui s'ensuit concernant les rites alimentaires. C'est Noé, par exemple, qui, dans l'arche, découvre, c'est l'expression, votre expression, qui découvre le pour l'autre, une belle formule adossée au Midrash de cette rencontre entre Noé et le lion, David Bannon.
Oui, entre Noé et le lion, c'est parce que Noé, lorsqu'il a reçu l'ordre de construire une arche, n'a même pas essayé d'intercéder auprès de Dieu comme l'ont fait beaucoup de personnages bibliques pour essayer de sauver sa génération. Et donc, les maîtres ne comprennent pas cela. Dieu lui a dit de construire une arche, il construit une arche. De faire entrer les animaux qu'il lui a envoyés, il fait rentrer les animaux. De les nourrir, il les nourrit. Mais dans l'arche, il va justement faire l'expérience d'autrui. L'altérité est là, parce que le Midrash nous dit il passait les 24 heures de sa journée à nourrir les animaux, puisque certains devaient manger le matin, d'autres à midi, d'autres le soir, d'autres la nuit, etc., etc. Et une fois, il a tardé à apporter sa pâture au lion, et le lion l'a griffé d'un coup de patte, et il en est resté blessé. Et donc là, on voit bien que Noé découvre le pour l'autre à l'intérieur de l'arche. Et c'est pour ça que nous sommes descendants de Noé.
C'est-à-dire que le pour l'autre, et en même temps, vous dites qu'il a été touché par le lion, il est devenu sorti boiteux, qui le rapproche de Jacob d'une certaine manière.
Alors boiteux, le Midrash dit que le lion lui a l'a griffé sur son visage. Donc c'est vrai, on peut dire que il a été blessé par un animal, et donc il peut ressembler à Jacob. Mais je pense que la génération prédiluvienne a disparu entièrement, nous sommes tous, non pas les descendants d'Adam, mais nous sommes tous les descendants de Noé.
Oui, si je vous comprends bien, je crois que l'importance de votre remarque pourrait passer inaperçue, et je pense qu'il faut la souligner, c'est l'humanité a pu se reconstruire parce qu'un homme, tout à coup, découvre l'importance de respecter les animaux, de les nourrir, c'était une façon, mais de les respecter et de voir dans les animaux une altérité, c'est-à-dire quelque chose auquel on doit faire attention. Et peut-être dans notre époque où on sait que le rapport à l'animal est un petit peu fatigué, si on peut dire, je crois que c'est un point qu'il faut absolument souligner. Alors, ça pose une question dans l'histoire des textes, puisque nous sommes dans l'histoire des textes sacrés. Ce respect pour les animaux peut sembler en contradiction avec les sacrifices animaux dont parle la Bible. Comment vous résolvez, David Bannon, cette contradiction?
Alors, je viendrai à votre question, mais d'abord, je voudrais juste souligner un point. Nous savons, vous et moi, que les 7 lois noachites n'étaient pas 7 au début, mais 6, comme le dit Maïmonide. Et le respect de ne pas prélever un membre d'un animal vivant est venu après le déluge et est venu se greffer sur les 6 premières lois noachiques. Et donc, nous voyons bien là qu'il y a quelque chose qui a été ajouté à partir de ce rapport à l'animal à l'intérieur de l'arche et lorsque Noé est sorti avec tous les animaux de l'arche. Ça, c'est un point, je pense, qui est extrêmement important parce que dans les 7 lois noachiques, cette dernière loi noachique qui a été ajoutée, c'est la défense de la cruauté envers l'animal, envers les espèces inférieures ou qu'on dit inférieures. Alors, bien entendu, on sait très bien que Derrida, on sait très bien qu'Élisabeth de Fontenay, surtout, avec le silence des bêtes, a mis en rapport le philosophème juif et le philosophème animal. Et Derrida même, en tout cas, a changé le mot qu'il adresse à l'animal en disant que c'est « animaux » pour éviter la troisième syllabe du mot qui est mal, il a mis animaux, M-O-T à la fin.
Alors, d'accord, c'est très important ce animaux avec M-O-T parce que ça dit quelque chose du langage qu'on doit avoir par rapport aux animaux qui va introduire ce respect, mais ça fait aussi un clin d'œil extraordinaire à un commentaire du Baal Shem Tov qui dit que le mot Teva, qui désigne l'arche en hébreu, signifie aussi le mot. C'est-à-dire que l'humanité a été sauvée en rentrant dans l'arche, c'est-à-dire en rentrant dans le mot, en renouant avec le langage éthique, mais ce langage éthique, et c'est ça toute sa modernité, qui va au-delà peut-être de ce que Lévinas construit dans l'éthique de l'autre, qui est l'éthique de mon prochain humain, là devient l'éthique de mon prochain animal. Et dans l'histoire de l'humanité, on avait l'impression que l'humain est au-delà de l'animal, ce qui est pour nous une sorte de presque de vérité, mais là on est en train de la déconstruire pour permettre de penser une éthique vis-à-vis de l'animal.
Oui.
D'où, là, de nouveau, la question qui revient. Comment, d'abord, on peut faire des sacrifices animaux, d'une part, et d'autre part, quel est il y a un problème peut-être avec le fait que nous mangions.
Alors, je reviendrai justement à votre question, mais là aussi, je voudrais faire une remarque. Il y a un grand débat entre les philosophes. Est-ce que l'animal a un langage ou l'animal n'a pas de langage. Mais la force d'Élisabeth de Fontenay et de Derrida, c'est de mettre ce débat de côté. Et comment ils le mettent de côté? Eh bien, ils le mettent de côté en se référant d'abord à Heidegger, qui a dit quelque chose, l'animal est pauvre en monde. D'accord. Et eux, ils le mettent de côté en disant, nous ne voulons pas discuter de savoir si l'animal a un langage ou pas. Mais est-ce que l'animal souffre ou ne souffre pas? Et ils répondent par, justement, oui, l'animal souffre et nous devons arrêter la souffrance de l'animal. Et ça, vous et moi, nous savons que nous avons un concept juridique dans notre tradition. Et je ne sais pas si Élisabeth de Fontenay et Derrida connaissaient ce concept. Tsar ba'alechaim. Et tsar ba'alechaim, c'est justement interdiction de faire souffrir un être vivant. Et c'est mis de oraita. Disent justement, ça veut dire, c'est dans la Bible elle-même que les maîtres du Talmud insèrent ce Tsar ba'alechaim.
Vous renforcez ma question, parce que si il y a une interdiction de faire souffrir les animaux, comment la Torah a pu non seulement autoriser de manger de la viande, mais d'autre part de faire des sacrifices dans le temple qui soient des sacrifices animaux, à moins que justement, peut-être comme le dit Maïmonide, de faire des sacrifices dans le temple a été une façon de canaliser et de restreindre le rapport, je dirais, violent à l'animal. David Bannon.
De canaliser, de restreindre, mais aussi peut-être de montrer qu'il y a une évolution à l'humanité. l'humanité justement doit passer ou devait passer par le sacrifice humain, ensuite le sacrifice animal qui remplace le sacrifice humain, et ensuite, et ça c'est très important parce que les chercheurs ne le voient pas souvent, c'est qu'il y avait des sacrifices végétaux, une oblation, minha, c'est-à-dire quelque chose qui était de l'ordre végétal, ce qui permet justement à Derrida de lire le chapitre 4 de Caïn et de Abel à contre-tradition en disant, eh bien moi, si je devais écrire ce chapitre 4, j'aurais dit Caïn a raison puisque c'est lui qui a apporté une offrande végétale et j'aurais rejeté l'offrande d'Abel.
Et ce commentaire de Derrida est en écho avec un commentaire d'un très grand maître kabbaliste qui l'a précédé de beaucoup, qui est le Rav Kook, qui dit que si il y avait le temple dans un temps futur qui serait reconstruit, il n'y aurait pas dans ce temple, dans ce troisième temple, de sacrifices animaux, mais sacrifices purement végétal. Et je crois que c'est très important parce que il y a des traditions aujourd'hui qui essaient de retrouver la manière de faire les sacrifices.
Exactement.
Je crois que c'est quelque chose qui est assez inepte, en tout cas ça pose question.
Exactement. Et que ce soit un très grand maître de la tradition juive qui dise cela, je pense que ça renforce l'idée justement de l'évolution de l'humanité et qu'on va justement vers un rapprochement avec cette espèce animale.
Heidegger parlait de l'oubli de l'être, c'est-à-dire de l'oubli du verbe être. Vous jouez sur l'homophonie pour entendre l'oubli de la lettre. Votre projet est d'ouverture, une manière justement de ne pas oublier la lettre, une façon de lire qui fait obstacle à l'oubli de l'autre. Et la grande nouveauté, si je peux dire, en tout cas dans notre conversation, mais il me semble qu'il émerge aussi de votre pensée, c'est ne pas oublier l'autre, l'autre humain et l'autre animal. Et on vient de le voir, d'où peut-être une question que ces rites posent, les rites alimentaires qui existent, qui se posent à notre société contemporaine, dans laquelle ces rites alimentaires sont de plus en plus respectés et démultipliés. Ces rites alimentaires ne risquent-ils pas de devenir des vecteurs de séparation et d'obstacles à la cohésion sociale par le fait de ne plus pouvoir partager ensemble les mêmes repas? Entre les végétariens, les végétaliens, les véganes, les halal et les kachers, comment dès lors peut se constituer une cuisine républicaine, David Bannon?
Une cuisine républicaine, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'elle vise, cette cuisine, c'est que c'est une cuisine qui respecte l'espèce animale et peut-être que la kashroute n'est qu'une volonté ou une utopie que l'humanité soit une humanité végétarienne.
Alors sur cette utopie végétarienne, je vous remercie David Bannon. Alors je sais que ça mérite beaucoup de questions parce que même ceux qui militent pour la cause animale ou certains qui militent pour la cause animale mangent aussi de la viande, peut-être de moins en moins. Peut-être que les rites alimentaires, on y reviendra dans une autre émission, sont là pour nous faire réfléchir justement sur ce rapport très spécifique et éthique par rapport à l'animal. En tout cas, merci David Bannon pour ces deux semaines de conversation riches et fécondes qui donnent envie de lire et de lire différemment et de vous lire aussi. Je rappelle le titre de votre livre, L'oubli de la lettre, qui vient de sortir aux éditions Albin Michel, un livre clair qui nous invite à retrouver l'humanisme de l'autre homme, comme disait notre maître Emmanuel Lévinas, mais peut-être aussi, alors j'ai pas trouvé la formule parce que je ne savais pas que notre conversation allait prendre ce tour, l'humanisme de l'autre animal, je ne sais pas si ça fait sens. En tout cas, les auditeurs comprendront qu'on a ouvert une porte et je vous en remercie. Merci encore, David Bannon. C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, Jean-Louis Deloncle. À la réalisation, comme d'habitude, Dany Journaud. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographique de notre invité sur le site de l'émission que vous pouvez podcaster pour la réécouter et le plaisir de la partager. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.